Chapitre 11. Le sang se révèle. Lorsque Gaston, de retour de la barrière de la conférence, rentra dans sa chambre de la rue des Bourdonnais, il vit la Jonquière installée près du poêle et dégustant une bouteille de vin d'Alicante qu'il venait de décoiffer. « Eh bien, chevalier, dit-il en apercevant Gaston, comment trouvez-vous ma chambre, hein? Elle est assez commode, n'est-ce pas? Asseyez-vous donc et goûtez ce vin, il vaut les meilleurs de Rousseau. » « Avez-vous connu Rousseau, vous ? Non, vous êtes de province, et l'on ne boit pas de vin en Bretagne. On y boit du cidre, de la piquette, de la bière, je crois. Je n'ai pu y boire que de l'eau de vie, moi, c'est tout ce que j'ai pu trouver. » Gaston ne répondit rien, car Gaston n'avait pas même écouté ce que lui disait la Jonquière, tant il était préoccupé d'une seule idée. Il se laissa tomber tout effaré sur une chaise, en froissant dans sa poche la première lettre d'Hélène. « Où est-elle ? » se demandait-il. « Ce Paris immense, illimité, va peut-être me la garder éternellement. Oh, c'est trop de difficultés à la fois pour un homme qui n'a ni le pouvoir ni l'expérience. » « À propos, dit la Jonquière, qui avait suivi dans le cœur du jeune homme ses idées aussi facilement que si le corps qu'il enveloppait eût été de verre. « À propos, chevalier, il y a une lettre pour vous ici. » « De Bretagne ? » demanda en tremblant le chevalier. « Non pas de Paris, d'une charmante petite écriture qui m'a tout l'air d'une écriture de femme, mauvais sujet. Où est-elle ? » s'écria Gaston. « Oh, demandez cela à notre hôte. Quand je suis entré tout à l'heure, il la roulait entre ses doigts. « Donnez, donnez !» s'écria Gaston en s'élançant dans la chambre commune. « Que désire monsieur le chevalier ?» demanda Tapin, avec sa politesse accoutumée. « Mais cette lettre ? Quelle lettre ? Et la lettre que vous avez reçue pour moi. Ah, pardon, monsieur, c'est vrai, c'est moi qui l'avais oubliée. » Et il tira la lettre de sa poche pour la donner à Gaston. Pauvre imbécile, disait pendant ce temps-là le faux la Jonquière, et ces niais-là se mêlent de conspirer. C'est comme ce d'Armental. Ils veulent faire à la fois de la politique et de l'amour. Triple sot. Que ne vont-ils pas tout bonnement faire l'un chez la Fillon? Ils n'iraient pas achever l'autre en grève. Au reste, mieux vaut qu'ils soient ainsi pour nous, dont ils ne sont pas amoureux. » Gaston rentra tout joyeux, lisant, relisant, épelant la lettre d'Hélène. Rue du Faubourg Saint-Antoine, une maison blanche derrière des arbres, des peupliers, je crois. Quant au numéro, je n'ai pas pu le voir, mais c'est la 31e ou la 32e maison, à gauche en entrant, après avoir laissé à droite un château flanqué de tours qui ressemble à une prison. Oh, s'écria Gaston, je le trouverai bien, ce château, c'est la Bastille. Il dit ces derniers mots de manière à ce que Dubois les entendît. Parbleu, je le crois bien que tu le trouveras, dit à part lui Dubois, quand je devrais t'y conduire moi-même. Gaston regarda sa montre. Il y avait encore plus de 2 heures avant son premier rendez-vous à la maison de la rue du Bac. Il reprit son chapeau qu'il avait posé en entrant sur une chaise et s'apprêta à sortir. « Eh bien, nous nous envolons donc ?» demanda Dubois. « Une course indispensable. »« Vous retrouverai-je ici ?» demanda Gaston. « Je ne sais, peut-être ai-je aussi à rassurer quelques jolies dames qui s'intéressent à ma personne, mais en tout cas, à l'heure dite, vous trouverez ici l'homme d'hier avec la même voiture et le même cocher. » Gaston prit hâtivement congé de son compagnon. Au coin du cimetière des Innocents, il trouva un fiacre, monta dedans et se fit conduire rue Saint-Antoine. À la 20e maison, il descendit, ordonnant au cocher de le suivre, puis il s'avança, explorant tout le côté gauche de la rue. Et bientôt, il se trouva en face d'un grand mur que surmontait la cime de hauts et touffus peupliers. Cette maison correspondait si bien au signalement que lui avait donné Hélène qu'il ne douta plus que ce fût elle qui renfermait la jeune fille. Mais là, la difficulté commençait. Il n'y avait à ces murailles aucune ouverture. Il n'y avait à la porte ni marteau ni sonnette. Il ordonna au cocher de s'arrêter, et, voulant prévenir par un signal bien connu, Hélène, qu'il était là, il longea une petite ruelle sur laquelle donnait le flanc de la maison, et, se rapprochant le plus possible d'une fenêtre ouverte qui donnait sur le jardin, il porta ses mains à sa bouche et imita, avec toute la force qu'il put lui donner, le cri du chat huant. Hélène tressaillit. Elle reconnut ce cri qui retentit à 1 ou 2 lieues de distance dans les genêts de la Bretagne. Il lui sembla qu'elle était encore au couvent des Augustines de Clisson et que la barque montée par le chevalier et glissant sous l'effort silencieux de l'aviron allait aborder au-dessous de sa fenêtre, au milieu des roseaux et des nénuphars. Ce cri, qui montait le long des murailles et qui parvenait jusqu'à son oreille, lui annonçait la présence attendue de Gaston. Aussi courut-elle aussitôt à la fenêtre. Le jeune homme était là. Hélène et lui échangèrent un signe qui voulait dire d'une part « je vous attendais » et de l'autre « me voilà ». Et puis, rentrant dans la chambre, elle agita une sonnette qu'elle tenait de la munificence de Madame Desroches, laquelle la lui avait donnée sans doute pour un tout autre usage, avec tant de force que non seulement Madame Desroches, mais encore la camérière et le valet de chambre accoururent précipitamment. « Allez ouvrir la porte de la rue, » dit impérieusement Hélène, « il y a à cette porte quelqu'un que j'attends. » « Restez, » dit Madame Desroches au valet de chambre et qui se préparait à obéir. « Je veux voir moi-même quelle est cette personne. »« Inutile, madame, je sais qui elle est et je vous ai déjà dit que je l'attendais. » Mais cependant, si mademoiselle ne devait pas la recevoir, reprit la duègne essayant de tenir bon, « Je ne suis plus au couvent, madame, et je ne suis pas encore en prison, » répondit Hélène. « Je recevrai qui bon me semblera. » « Mais au moins puis-je savoir quelle est cette personne ?»« Je ne vois aucun inconvénient à cela, c'est la même personne que j'ai déjà reçue à Rambouillet. »« Monsieur de Livry ?»« Monsieur de Livry. »« J'ai reçu l'ordre positif de ne jamais laisser pénétrer ce jeune homme jusqu'à vous. »« Et moi je vous donne celui de me l'amener à l'instant même. » « Mademoiselle, vous désobéissez à votre père, hein, » reprit la Desroches, moitié colère, moitié respectueuse. « Mon père n'a rien à voir ici, et surtout par vos yeux, madame. »« Cependant, qui est maître de votre sort ?»« Moi, moi seul !» s'écria Hélène, se révoltant à l'aspect de cette domination qu'on voulait exercer sur elle. « Mademoiselle, je vous jure cependant que monsieur, votre père, mon père m'approuvera s'il est mon père. » Ce mot, lancé avec tout l'orgueil d'une impératrice, courba Madame Desroches sous l'accent de domination qu'il renfermait. Elle se retrancha dès lors dans un silence et une immobilité qui imitèrent les valets présents à cette scène. « Eh bien, » dit Hélène, « j'ai ordonné d'ouvrir la porte. N'obéit-on pas quand je commande ?» Personne ne bougea. On attendait les ordres de la gouvernante. Hélène sourit dédaigneusement, et ne voulant pas commettre son autorité avec cette valetaille, elle fit de la main un geste si impérieux que Madame Desroches démasqua la porte devant laquelle elle se trouvait et lui livra passage. Hélène alors descendit, lente et digne, les escaliers, suivie de Madame Desroches, pétrifiée de trouver une pareille volonté dans une jeune fille sortie depuis 12 jours de son couvent. « Mais c'est une reine, » dit la femme de chambre, en suivant Madame Desroches. « Quant à moi, je sais bien que j'allais ouvrir la porte si elle n'y était pas allée elle-même. »« Hélas, » dit la vieille gouvernante, « voilà comment elles sont toutes dans la famille. » Pendant ce temps, Hélène avait descendu les degrés du perron, avait traversé la cour et s'était fait ouvrir la porte d'autorité. Sur le seuil était Gaston. « Venez, mon ami, » lui dit Hélène. Gaston la suivit. La porte se referma derrière eux, et ils entrèrent ensemble dans les appartements du rez-de-chaussée. « Vous m'avez appelé, Hélène, et je suis accouru, » lui dit le jeune homme. « Avez-vous quelque chose à craindre? Quelque danger vous menace-t-il? « Regardez autour de vous, » lui dit Hélène, « et jugez. » Les deux jeunes gens étaient dans l'appartement où nous avons introduit le lecteur, à la suite du régent et de Dubois, lorsque celui-ci voulut le rendre témoin de la mise hors de page de son fils. C'était un charmant boudoir, attenant à la salle à manger, avec laquelle, on s'en souvient, il communiquait non seulement par deux portes, mais encore par une ouverture cintrée, toute masquée de fleurs des plus rares, des plus magnifiques, des plus parfumées. Le petit boudoir était tendu de satin bleu, parsemé de roses au feuillage d'argent. Les dessus de porte de Claude Audran représentaient l'histoire de Vénus, divisée en 4 tableaux. Les panneaux formaient d'autres épisodes de la même histoire, mais tous si suaves de contours, si voluptueux d'expression, qu'il n'y avait pas à se tromper sur la destination de ce petit boudoir. Les peintures que Nocé, dans l'innocence de son âme, avait assurées au régent du pur maintenant, avaient suffi cependant à effaroucher la jeune fille. Gaston, dit-elle, aviez-vous donc raison de me faire défier de cet homme qui se présentait à moi comme mon père? En vérité, j'ai plus peur encore ici qu'à Rambouillet. Gaston examinait toutes ses peintures, l'une après l'autre, rougissant et pâlissant successivement à l'idée qu'il y avait un homme qui avait cru à la possibilité de surprendre les sens d'Hélène par de pareils moyens. Ils passèrent devant Madame Desroches, qui ne les avait pas perdus de vue, qui leva les mains au ciel d'un air désespéré, et à qui il échappa de dire « Oh mon Dieu, que pensera mon Seigneur ?» Ces mots firent éclater l'orage depuis longtemps contenu dans la poitrine de Gaston. « Monseigneur, s'écria-t-il, vous l'avez entendu, Hélène, monseigneur, ah, vous aviez raison de craindre et votre chaste instinct vous avertissait du danger. Nous sommes ici dans la petite maison de quelqu'un de ces grands pervertis qui achètent le plaisir aux dépens de l'honneur. Jamais je n'ai vu cette demeure de perdition, Hélène, mais je les devine. » « Mon Dieu, dit Hélène, si cet homme allait venir, si, avec l'aide de ses valets, il allait nous retenir de force. »« Soyez tranquille, Hélène, dit Gaston, ne suis-je pas là ?»« Oh, mon Dieu, renoncez à cette douce idée d'un père, d'un protecteur, d'un ami. »« Hélas, et dans quel moment, lorsque vous allez être seul au monde, dit Gaston, livrant sans y songer une partie de son secret. » « Que dites-vous là, Gaston, et que signifient ces paroles sinistres ?»« Rien, rien, reprit le jeune homme, quelques mots sans suite qui me sont échappés et auxquels il ne faut attacher aucun sens. »« Gaston, vous me cachez quelque chose de terrible, sans doute, puisque, au moment même où je perds mon père, vous parlez de m'abandonner. »« Oh, Hélène, je ne vous abandonnerai qu'avec la vie. » « Ah, c'est cela, reprit la jeune fille, vous courez péril de la vie, et c'est en mourant que vous craignez de m'abandonner. » Gaston pâlit. Hélène baissa les yeux et, laissant tomber sa main entre les mains froides et humides de son amant, « Devant tous ces gens qui nous regardent, dit-elle, sous les yeux de cette femme vendue, qui ne peut comploter contre moi qu'une trahison, Gaston, nous allons sortir ensemble. » Les yeux de Gaston lancèrent un éclair de joie, mais à l'instant même une sombre pensée les voila comme un nuage. Hélène suivit sur le visage de son amant cette double expression. « Ne suis-je pas votre femme, Gaston, dit-elle, mon honneur n'est-il point le vôtre? Partons. »« Mais que faire, dit Gaston, où nous loger ?»« Gaston, répondit Hélène, je ne sais rien, je ne puis rien, j'ignore Paris, j'ignore le monde, je ne connais que moi et vous. » « Eh bien, vous m'avez ouvert les yeux, j'ai défiance de tout et de tous, excepté de votre loyauté et de votre amour. » Le cœur de Gaston se brisait, et 6 mois auparavant il eut payé de sa vie le généreux dévouement de la courageuse jeune fille. « Hélène, réfléchissez, dit Gaston, si nous nous trompions, si cet homme était véritablement votre père. Gaston, c'est vous qui m'avez appris à me défier de ce père, vous l'oubliez. » « Ah, oui, Hélène, oui, » s'écria le jeune homme, « à tout prix, partons !»« Où allons-nous ? » dit Hélène, « vous n'avez pas besoin de répondre, Gaston, que vous le sachiez, cela suffit. Une dernière prière, cependant, voici un Christ et une Vierge singulièrement placés au milieu de ces fresques impures. Jurez sur ces saintes images de respecter l'honneur de votre femme. » « Hélène, » répondit Gaston, « je ne vous ferai pas l'injure de faire un pareil serment. » L'offre que vous me faites la première aujourd'hui, j'ai hésité longtemps à vous la faire. Riche, heureux, sûr du présent, fortune, richesse, bonheur, j'eusse tout mis à vos pieds, m'en rapportant à Dieu du soin de l'avenir. Mais, à ce moment suprême, je dois vous le dire, non, vous ne vous étiez pas trompé, oui, il y a entre aujourd'hui et demain la chance d'un événement terrible. Ce que je puis vous offrir, je puis donc vous le dire, Hélène, c'est, si je réussis, haute et puissante position peut-être. Mais si j'échoue, c'est la fuite, l'exil, la misère peut-être. M'aimez-vous assez, Hélène, ou aimez-vous assez votre honneur pour braver tout cela ? Je suis prête, Gaston, dites-moi de vous suivre et je vous suis. Eh bien, Hélène, votre confiance ne sera pas trompée, soyez tranquille. « Ce n'est pas chez moi que vous venez, mais chez une personne qui vous protégera s'il est besoin et qui, en mon absence, remplacera le père que vous avez cru avoir retrouvé et que vous avez, au contraire, perdu une seconde fois. Quelle est cette personne, Gaston? Ce n'est pas de la défiance, ajouta la jeune fille avec un charmant sourire, c'est de la curiosité. Quelqu'un qui ne peut rien me refuser, Hélène. Allons. Hélène prit le bras du chevalier et traversa le salon. Dans ce salon était Madame Desroches, toute crispée d'indignation et griffonnant une lettre dont nous pouvons déjà préjuger la destination. « Mon Dieu, mademoiselle, s'écria-t-elle, où allez-vous? Que faites-vous? »« Où je vais? Je pars. Ce que je fais, je fuis une maison où mon honneur est menacé. » « Comment ? » s'écria la vieille dame, comme si un ressort l'eût dressé sur ses jambes. « Vous sortez avec votre amant ?»«
Vous vous trompez, madame, » répondit Hélène d'un accent plein de dignité. « C'est mon mari. »
Madame Desroches laissa tomber de terreur ses deux bras contre ses flancs décharnés.
« Et maintenant, » continua Hélène, « et si la personne que vous connaissez me demande pour quelque entrevue, vous lui direz que toute provinciale et pensionnaire que je suis, j'ai deviné le piège, que j'y échappe et que si l'on me cherche, on trouvera au moins à mes côtés un défenseur.
« Vous ne sortirez pas, mademoiselle, » s'écria Madame Desroches, « quand je devrais employer la violence. »
« Essayez, madame, » dit Hélène de ce ton royal qui semblait lui être naturel.
« Hola, Picard, couturier, Blanchot !»
Les valets accoururent. « Le premier qui me barre la porte, je le tue, » dit froidement Gaston en dégainant son épée bretonne.
« Quelle infernale tête !» s'écria la Desroches. « Ah, mademoiselle de Chartres et de Valois, je vous reconnais bien là !»
Les deux jeunes gens entendirent cette exclamation, mais sans la comprendre.
« Nous partons, » dit Hélène. « N'oubliez point, madame, de répéter mot pour mot ce que je vous ai dit. »
Et, suspendu au bras de Gaston, rouge de plaisir et de fierté, brave comme une amazone antique, la jeune fille commanda qu'on ouvrît la porte de la rue. Le Suisse n'osa résister. Gaston prit Hélène par la main, ferma la porte, fit avancer le fiacre dans lequel il était venu, et comme il vit qu'on s'apprêtait à le suivre, il fit quelques pas vers les assaillants en disant à haute voix « Deux pas de plus et je dis tout haut cette histoire, et je me mets, moi et mademoiselle, sous la sauvegarde de l'honneur public. »
La Desroches crut que Gaston connaissait le mystère et craignit qu'il ne nommât les masques. Elle eut peur et rentra précipitamment, suivie de toute la valetaille. Le fiacre intelligent partit au galop.